tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Vous êtes sur Radio Campus 106.6, il est 18h et aujourd'hui, nous sommes trois pour animer cette émission. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonjour à tous.
De Dominique.
Salut à tous.
On a comme d'habitude un sommaire rempli notamment par l'agenda et je pense qu'on pourrait faire facilement 4-5 émissions
c'est
aujourd'hui.
Fou, on ne croirait pas, hein, pourtant avec tout ce qui se passe en France et dans le monde en ce moment, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'événements, il n'y a pas d'exposition, il n'y a pas de festival. Ouais.
Malgré les annulations ou les reports, il y aura toujours à avoir quelque chose à aller visiter ou regarder.
Et on peut commencer tout de suite, hein, puisque on verra ce qu'on arrive à faire. Est-ce qu'on va parler de jeux vidéo? Est-ce qu'on va parler de ce qui se passe en octobre, hein, notamment pour faire suite à l'émission de l'écho des tropiques?
Absolument.
Alors, je vous propose de commencer tout de suite par quelque chose qui va se passer très prochainement. C'est le Design Capital qui nous a proposé ça avec la Design Week qui va se passer sur la métropole de Lille.
Parce que Lille est capitale européenne du design 2020. Et alors, il y a déjà des événements un petit peu partout, des expos, mais c'est cette semaine que... ça va être une semaine un petit peu plus particulière où il y aura encore plus d'événements que d'habitude. Je n'ai même pas encore eu le temps de regarder le programme, j'avoue. Je vais essayer de me déplacer, de voir des choses. Mais il y a pas mal d'expos à faire sur Lille, donc c'est intéressant. Si vous habitez la métropole...
Et tout pouvez. Ça va se passer le week-end prochain. Donc,
C'est toute la semaine.
Je vois qu'il y a du design pour les kids, donc ça peut être intéressant.
Et ça se passe dans pas mal d'endroits. Les maisons folies, les différentes maisons folies de Lille. Il y a le Tripostal, il y a Saint-Sauveur aussi qui est touché, je crois. Enfin, il y a tellement de choses. Et pas que Lille, il y a aussi Tourcoing, la Madeleine-Croix, il y a pas mal d'expos. Toutes les infos, c'est sur designcapital, en un seul mot.com. Vous avez tout le programme pour la Design Week 2020, et avec les précautions d'usage, bien sûr.
Voilà. Alors, on a un éventail assez large ici. On peut aussi parler d'un événement qui se passera cette fois-ci du 22 au 25 octobre cette année. C'est le Spiel.
Comme toutes les années, le Spiel, le plus grand salon mondial du jeu de société, du jeu pour enfants, enfin du jeu en fait. C'est en Allemagne, c'est à Essen, si je ne dis pas de bêtises.
À Essen, tout à fait. Ouais.
On n'y est pas encore allé, on ira un jour. C'est la mecque pour tous les joueurs.
On a un spécialiste dans l'émission qui n'est pas là aujourd'hui. On fait un petit coucou à Pierre-Yves, qui d'habitude va un peu... Voilà,
qui à chaque fois revient en nous disant « moi, j'y ai été » et qui nous fait baver à chaque fois.
Tant pis pour toi.
Voilà. Mais cette fois-ci, je crois que ça va changer.
C'est vraiment la mecque, parce que c'est ça, il y a des milliers de gens qui viennent du monde entier et on se doute bien qu'avec ce qui se passe en ce moment, il y aura par les Allemands, il n'y aurait pas grand monde qui vient, les voyages sont bloqués, etc. Donc du coup, ça sera un Spiel digital, comme pas mal d'expositions. Ouais, ça ne va pas être pareil.
Tu crois? Est-ce que ça ne peut pas être intéressant
Une fois, on va y aller. Dire à Pierre, nous aussi, on y allait.
D'abord.
Sur mon ordinateur, sur mon navigateur, je suis allé au Spiel, moi aussi.
Ça permettra de découvrir de très bons jeux. Hein.
Parce que oui, quand même, pour vous dire à quel point c'est important, c'est que la plupart des éditeurs du monde entier, notamment les Français, basent les sorties de leurs nouveautés en matière de jeu sur la date du Spiel. Un petit peu, on l'avait déjà expliqué, comme pour les réalisateurs, les producteurs de films qui se basent pour choisir leur date de sortie de film sur le Festival de Cannes. C'est souvent à ce moment-là, parce que c'est aussi un festival pour le public, mais aussi que je parle de Cannes et du Spiel, pour les professionnels, parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans les allées, les immenses allées des halls gigantesques de Essen, où il y a des jeux par milliers, par millions, mais il y a plein de choses qui se passent en coulisses, derrière les paravents, derrière les stands, etc. Il y a des discussions, il y a des contrats qui se signent, ou qui se rompent, je ne sais pas. Il y a des disputes, il y a des gens qui se battent à main nue dans la boue, peut-être, pour diffuser leur jeu, enfin, je ne sais pas trop. Mais...
Tiens, c'est bizarre, ce jeu ressemble bizarrement à celui que j'ai prototypé quelques années auparavant.
Et c'est ça, il y a plein d'échanges de promos, il y a des magasins, il y a des boutiques, tous les auteurs sont là pour faire signer leurs jeux, les dédicaces des illustrateurs, etc. C'est vraiment un marché, comme Cannes est le marché du cinéma aussi.
Mais la semaine dernière, tu avais récolté une interview, justement, d'une aventure qui s'était passée comme ça dans les backstage.
C'est comme ça, oui, la rencontre entre le public et ses auteurs, c'est comme ça aussi que se développent les idées, quoi, et qu'on a des conseils. C'est vraiment la mecque, qu'on soit acheteur, joueur ou futur créateur de jeux. Donc ça sera en ligne cette fois, ça sera pas pareil. Ça sera toujours en allemand, mais bon.
Ça sera intéressant et on pourra y aller cette fois-ci, c'est
et
ça
on
qui
aura,
est excellent.
Voilà, on verra les nouveautés, on en saura un peu plus.
Alors, on continue, hein, ça se passera également le 25 octobre. Cette fois-ci, c'est une croisière.
On en avait déjà parlé, mais la croisière du Houblon.
Mais on ne pourra pas y être.
On l'a déjà commencé tout à l'heure avant l'émission, la croisière du Houblon.
On va demander si on peut enregistrer en direct sur la péniche. Pourquoi pas ?
Ça va être chaud.
Non, mais ce qui va occuper beaucoup de nos auditeurs la semaine prochaine, ça reste le Z-Event.
Absolument.
Comme... Qui a cartonné. Ouais. C'est sa troisième édition, si je ne me trompe pas.
Un petit peu plus que ça, ça va être la cinquième.
Cinquième édition, effectivement.
Mais la dernière avait eu beaucoup, beaucoup de succès, avait récolté énormément de gains.
3,5 millions.
C'était le record pour cet événement. Puisque, mais c'était aussi le record pour... donc le Z-Event, c'est organisé par Zerator, qui est un streamer très très connu, qui organise donc depuis 5 ans un rassemblement où il invite tous ses copains streamers les plus connus. Hein, donc je vais dire Squeezie par exemple, l'un des plus connus, mais même ceux qui ne suivent pas connaissent son nom.
Tu veux réécouter du
Squeezie?
Non,
Squeezie,
c'est bon.
J'espère qu'il ne va pas le faire chanter. Hein.
Pourquoi pas un petit concert live?
Ça peut être un des paliers justement pour les contributeurs de Squeezie, de dire si vous donnez jusqu'à je sais pas combien de milliers ou de centaines de milliers d'euros, je vous fais un live en direct de la chanson.
Est-ce que c'est pas se tirer une balle et risquer de perdre de l'argent?
Mais je sais plus si c'est l'année dernière ou il y a deux ans où pas mal de streamers ont dit si vous atteignez 200 000 euros sur mon stream, je m'inscris au marathon de Paris. Et ils se sont retrouvés à 4-5 à être inscrits et devoir s'entraîner.
Parce que je me coupe les cheveux en direct, tatoue le Z-Event sur le torse.
Se raser la tête, rentrer chez soi en métro ou en vélo, alors que tu habites à Marseille et que tu es à Paris.
C'est comme ça que ça se passe. Donc c'est les 16, 17 et 18 octobre, donc tout le week-end prochain, à partir du vendredi, et ça risque peut-être même de continuer, et ça sera non-stop, c'est-à-dire que vous allez sur votre navigateur, sur la page zevent.fr, pour l'instant il n'y a pas encore grand-chose du programme, mais ça sera en ligne. Tous les streamers, ils sont déjà prêts sur place. Parce que déjà l'année dernière, on voyait les images quand ils ont réussi un objectif, ou surtout quand ils sont aperçus qu'ils ont battu le record mondial, ils sont tous pris dans les bras les uns des autres, mais là ça va pas être possible. Donc ce qui se passe, c'est qu'apparemment depuis une semaine, il y en a certains qui sont déjà en confinement, en quarantaine. Ça va se passer dans un hôtel, c'est à Montpellier, parce que c'est la ville d'origine de Zerator. Ça se passe à Montpellier dans un hôtel, tous les participants, les streamers, seront confinés dedans. Donc c'est vraiment, ils ont longtemps hésité avant de le faire encore cette année. Et effectivement, ça base de challenge, quoi. Cette année, c'est donc l'année dernière, c'était pour l'Institut Pasteur. Ils ont réussi à récolter 3,5 millions d'euros.
3,5 millions, ouais, en comptant les donations et la vente des t-shirts.
Absolument. La première édition, ils avaient récolté 170 000 euros, ce qui était sympa et tout. Mais là, c'est vraiment un énorme succès. Alors, le but, Zerator l'a dit, c'est pas forcément de battre le record chaque année, parce que c'est pas forcément facile. Et puis, c'est forcément une bonne idée de se fixer un objectif comme ça, c'est surtout de faire connaître la cause. Cette année, c'est Amnesty International. Alors peut-être, c'est dommage que... Enfin, l'année dernière, c'était l'Institut Pasteur qui a bien dû utiliser les dons pour la recherche pour le vaccin contre le Covid, notamment. On aurait pu imaginer qu'ils reprennent la même... je pense que les gens auraient donné Amnesty International, donc une œuvre tout à fait louable. Donc... on va voir ce que ça va donner. Ils sont plus de 50 streamers connus. Il y aura du jeu vidéo, il y aura des challenges, il y aura sur place, enfin, puis n'importe qui peut participer. Notre ami Viking en a parlé ce matin dans son émission, Twitch Café, tous les dimanches, 10h sur Radio Campus. Il avait invité un autre streamer connu, je ne retrouve plus le nom, mais Rénal va me trouver ça vite fait, merci. Et ils ont encore parlé ce matin, donc vous pouvez écouter si vous allez sur Radio Campus, vous allez dans la partie podcast.
Cyrémix pour le
voilà, streamer. Qui est un streamer aussi, qui fait aussi du jeu vidéo, notamment Trackmania. Donc ils ont parlé, il a refait une suite du dossier, comment se lancer dans Twitch, qu'est-ce que c'est qu'un Twitch, comment on stream, etc. C'était passionnant. Et ils ont parlé du Z-Event, qui eux aussi vont faire des petits événements à leur échelle, participer, commenter. Vu que ça se termine le dimanche soir pendant notre émission, peut-être qu'on en parlera en direct, on pourra annoncer le chiffre en live et voir si Squeezie et ses copains, peut-être même passer du Squeezie en live. Allez.
Tu aurais pu citer le joueur du grenier, mais non, restes fixé.
Y en a tellement en fait, oui c'est le premier nom qui me vient, mais il y a tellement de streamers connus.
Mais je trouve ça quand même assez paradoxal de faire un événement de stream et puis de se forcer à réunir tout le monde comme ça dans un hôtel, de les confiner.
À mon avis, oui, y aura que eux, donc, mais je comprends un petit peu, c'est pas la même ambiance quand tu es au moins ça permet aussi à d'autres, certains streams, de tous les voir dans une même pièce. Enfin, ça sera plus, j'imagine, un grand hall, de les voir se lancer directement des challenges en physique. Ce qui est pas plus mal, parce que c'est vrai que bon, la vie digitale, le télétravail, tout ça, c'est sympa, mais on aime bien aussi rencontrer ses potes en vrai, en live.
Vous auriez pu faire chacun dans sa chambre d'hôtel et de temps en temps, il y en a un qui rentre.
C'est le souci, c'est que pour avoir regardé les éditions précédentes, tu pouvais regarder un streamer, puis tu voyais juste à côté, l'autre streamer venait le chambouler, l'embêter pendant qu'il discutait avec ses viewers ou d'autres. Tu as une côté camaraderie, tu as une émulsion dans la hype qui fait que toi, en fait, tu commences à regarder les autres streamers aussi, aller voir leur contenu. Pas forcément pour faire des dons, mais au moins pour faire connaître les gens. Et tu vois que c'est, je vais pas dire de la galéjade, mais tout le monde s'amuse, tout le monde...
On voit qu'ils sont impliqués physiquement, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai que quand tu vas sur leur chaîne Twitch, YouTube ou peu importe, et que tu les vois, ils sont tout seuls dans leur décor, etc. Ils parlent, peut-être qu'ils communiquent à côté avec d'autres personnes, mais ils sont pratiquement tout seuls, quoi. Tandis que là, tu les vois vraiment, effectivement, ils peuvent...
Tu les mets un par chambre d'hôtel, bah, c'est autant qu'ils restent chez eux.
Ouais.
Des fois, Zerator, quand il fait des lives dans son studio... au niveau de son stream, il invite des gens, bah c'est pas du tout la même chose que quand il est en vocal sur un Discord. T'as une franche camaraderie qui se reporte.
Il y a un côté humain, qui rapproche de la cause qui est défendue.
Ça, ok, vous m'avez convaincu.
Donc toutes les infos, ça sera sur zevent.fr. Là, vous aurez la liste des streamers quand ça sera mis en ligne.
On peut également citer un événement qui sera proposé par le Donjon Vagabond.
Le dojo.
Dojo.
Tu l'as refaite. Hein.
Ouais.
Le dojo vagabond qu'on avait réussi au mois d'août, c'est ça qui fait de l'initiation à la cérémonie du thé en plein centre de Lille. Et donc, il fait régulièrement des collaborations. Et je lui avais signalé justement que pendant l'été, il y a un film japonais qui était sorti qui s'appelle, alors attention, je ne sais pas si je vais réussir à le prononcer, Dans un jardin qu'on dirait éternel. C'est un film japonais qui, justement, est basé sur une jeune femme qui apprend la cérémonie du thé, là, qui est vraiment quelque chose de très traditionnel au Japon. Et justement, ce film est encore à l'affiche dans certains cinémas. Et donc, demain, donc le 12 octobre, si vous avez écouté l'émission en replay et que vous avez raté, bah tant pis. Enfin, le film reste toujours valable à voir, bien sûr. C'est au Kino Cinéma, donc à Villeneuve-d'Ascq. Vous aurez la séance de cinéma, et il faut réserver bien sûr, et vous pourrez avoir votre initiation à la séance, à la cérémonie du thé et à la dégustation du ramen, et vous pourrez même emporter votre ramen dans la salle pour le manger pendant le film. Ça, c'est génial.
Ça donne envie.
Ça va changer des pop-corn à nettoyer après le cinéma, mais bon.
C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de restaurants comme ça qui proposent des ramen de qualité. Donc ça,
sur l'île, non.
C'est une... Il y en a quelques-uns.
Hein. Ouais, il faut bien chercher. Ouais.
On va pas faire de pub. On a encore des choses dans l'agenda, c'est incroyable. Cette fois-ci, c'est Teal Games. On en avait parlé également lors d'une dernière émission. C'est un événement qui se passera le 17 octobre, samedi.
Absolument, bah c'est à la librairie Les Quatre Chemins, dont on avait déjà parlé, puisqu'ils avaient accueilli pour un samedi les Belges de The Belgian Beer Race. Et samedi prochain, donc c'est ça le 17 octobre, ça sera les représentants du jeu Alchemy qui viendront présenter leur jeu.
Alors, Alchemy, un jeu de figurines.
Un jeu de figurines, effectivement, un jeu d'escarmouche, comme on dit ça simplement. Alchemy, ça s'écrit A-L-K-E-M-Y. C'est un jeu qui existe depuis bien longtemps et les diffuseurs sont, c'est les Français qui ont repris le flambeau du jeu et qui viendront faire des démonstrations, des animations, des peintures. Il y aura même un tournoi pour ceux qui possèdent déjà le jeu, des figurines du jeu et qui jouent déjà peuvent encore s'inscrire au tournoi. Je pense qu'il y a de la place. Toutes les infos, c'est sur alchemythegame.com. Ce sera le lien sur nos sites à nous. Et donc vous pouvez venir simplement, librement, à la librairie des Quatre Chemins, qui est au plein centre de Lille, pas très loin de la gare, et découvrir le jeu, poser des questions, etc. Puis découvrir l'endroit, Teal Games, Teal sera là pour les accueillir, bien sûr.
Parfait.
Il est possible qu'on y soit.
Et on fait également, alors là, cette fois-ci, sur l'agenda passé, la semaine dernière, on avait reçu les créateurs d'un projet Ulule avec la taverne baraque à jeux de rôle. Un projet, je rappelle, qui était financé. Et le Ulule est terminé, si je ne me trompe pas.
Exactement, ça s'est terminé hier soir.
Voilà, ils ont terminé avec 12 000 euros.
Pile.
Parfait. 12 000 0 0. Voilà, parfait.
Sur l'objectif de 4 000 de départ, donc largement financé. Donc, on attend l'ouverture de ce bar à jeux de rôle, sans doute en janvier. Mais bon, avec les événements qui se passent en ce moment, c'est difficile de fixer une date précise.
C'est ça. Et ce qui nous avait plu, c'est cette salle où on peut faire du jeu de rôle. Et...
ouais, les salles immersives pour faire quelques jeux de rôle bien typés sont intéressantes à découvrir.
Voilà, autour d'une planche apéro. Est-ce qu'il y a d'autres points d'agenda, Dominique ?
On va pas passer un peu de musique là, moi, ça me
convient. Allez. Parfait. Alors, je te propose. Alors, j'ai Ben Harper qui.
Oui, Ben Harper.
Bah, tu l'as voulu, écoute. Ben Harper travaille déjà sur son album de Noël.
Ah ouais, quand même.
Ah bah écoute, faut...
Tu vas me dire, cette semaine dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu un catalogue de jouets de Noël. Aïe.
C'est parti. Alors, l'album va s'appeler Winter is for Lovers. Et lui propose un petit tour du monde. Et chaque chanson aura un titre de ville. C'est pas mal.
Intéressant.
Mais alors, ici, il ne chante pas Ben Harper. Il utilise uniquement ses skills, hein, ses dons à la guitare. Et il pose la guitare sur ses genoux et joue comme ça au-dessus. Donc, il ne la tient pas de manière, j'ai envie de dire, académique.
Oui.
Alors, là, on va s'écouter une des chansons françaises qui s'appelle « Paris ». Tu voulais de la découverte.
C'est déjà sorti ?
Ah non, ça sort le 23 octobre.
Il a mis un petit teaser, j'imagine.
Il y a deux chansons, effectivement. Alors, il joue en déplaçant son doigt comme ça, le long du manche.
Ça s'appelle
un peu à la version country.
Ouais, c'est ça. Ouais. Au moins, il n'y a pas d'accordéon. Il n'est pas tombé dans le piège.
Ne lui donne pas d'idée parce qu'il n'a pas encore finalisé l'album.
Il y a des grands chanteurs qui ont chanté Paris. Zaz.
On peut s'écouter
non.
du... On en parlait hors émission avant de commencer. Et c'est vrai que Thomas Dutronc attaque sa tournée de son album Frenchie.
Comment il va faire ? Ah oui, il y a des salles, ça sera limité.
Ah bah, au moins, en fait, je pense qu'il s'est dit, il n'y aura personne. Alors, est-ce que je ne profiterai pas de le faire maintenant ? Comme ça, j'aurai une bonne raison que mes salles soient vides.
Ouais.
Tu comprends ?
Ça ne marche plus, cette excuse-là.
Et donc, on peut le voir maintenant dans les émissions telles que Taratata ou autres pour chanter son fameux « Get Lucky ».
Ouais, mais c'est nul parce que dans son album,
il
avait invité des chanteurs étrangers pour chanter avec lui. Il va pas faire la tournée avec eux.
Non. Mais j'aime bien.
C'était le seul intérêt de son disque, c'est effectivement qu'il avait invoqué invité des stars étrangères, des chanteurs étrangers à chanter des fois en français. Mais je me rappelle, il y avait une chanson avec Iggy Pop, par exemple. Mais...
Est-ce que tout le monde peut pas se louer Iggy Pop maintenant ?
On connaît le prix.
Alors, est-ce que ça respire l'esprit de Noël ? C'est ça ma grande question. Rénal est en pleine réflexion.
Bah, j'ai l'impression qu'en fait, il a répété les mêmes riffs pendant 2-3 minutes, et puis qu'après, il n'y a rien de transcendant. Quoi.
Pourquoi Paris ?
Ah, il lui manquait 5 secondes pour,
oui, pourquoi Paris ?
Pour que ça passe à la radio.
Après, si vous voulez, on peut s'écouter une autre ville. Hein. C'est pas la seule ville.
Tout à l'heure.
On verra tout à l'heure pour
ça
voir un peu la différence.
Ça fait un petit peu ambiance. Années 30, musique tzigane. Non, tu vois pas où je veux t'emmener.
Allez, tu me lances dans le jeu vidéo, ça j'aime bien. Et oui, c'est, comme vous le savez en ce moment, le jeu vidéo et même les films s'innovent de plus en plus en proposant de nouveaux univers, de nouvelles créations. Et c'est pour ça qu'on a vu plein de jeux tels que Mafia Definitive Edition, Donc c'est le remake tout simplement du Mafia 1. Et comme tous les remakes, on s'attend à des graphismes d'aujourd'hui. Sauf que...
Non, moi, quand j'ai un jeu vidéo, j'attends des graphismes de demain, moi, maintenant.
Ah oui, voilà. Sauf qu'eux sont un peu trompés. Ils ont pris les graphismes d'il y a 2-3 ans. Donc, on a une version de Mafia qui sort avec... Bon, c'est effectivement, si on compare au premier Mafia qui date...
De combien?
De trop. Il y a vraiment un gap ici énorme quand on compare les graphismes. Mais si on compare à ce qu'on peut voir aujourd'hui, hein, je parle à des jeux de Rockstar ou autre.
Le AAA, oui, c'est ça.
Ici, on est loin d'être satisfait par la qualité immersive des graphismes. Et ce Mafia, même s'il va plaire à beaucoup d'anciens joueurs, reste un peu décevant. À savoir qu'on ne retrouve pas exactement les mêmes personnages. Enfin, dans le scénario, oui, mais tout a été refait un peu. Donc les personnages n'ont pas forcément la même tête qu'avant, ce qui vous donne un petit décalage déjà.
Je parle des joueurs qui ont déjà fait le jeu dans tous les sens, qui l'ont poncé, comme on dit, qui le connaissent par cœur.
Voilà, parce que là, tu rajoutes de l'affect dans ta décision.
Est-ce que ce n'est pas un peu notre cas à tous? Est-ce que vous n'avez pas tous joué?
Moi, je n'ai pas du tout joué à Mafia, quel que soit le Mafia de la série, d'ailleurs, ni le 1, le 2, etc.
Alors, moi, c'est bizarre. Moi, j'ai découvert Django Reinhardt, par exemple, par ce jeu Mafia. Ça m'a plongé dans cet univers. J'ai trouvé... C'est un des premiers jeux de style, j'ai envie de dire film, où on a l'impression de jouer tout en regardant un film, puisqu'on est toujours pris dans ses actions.
Comme le GTA, oui.
On était quand même... Mafia 1 reste un jeu, quand il est sorti, qui proposait une 3D un peu innovante. Les visages avaient été mappés différemment comparé aux autres jeux. Les petites fumées de cigarettes faisaient des petits ronds, ce qu'on voyait pas autre part.
T'avais aussi des douilles ou des trucs comme ça qui tombaient quand tu tirais. Par rapport à l'époque, pour le moteur graphique, c'était assez important. T'avais pas mal de bonnes choses qui étaient sorties avec ce Mafia.
Alors, oui, il était excellent. Alors, est-ce qu'on a cette même révolution aujourd'hui? Clairement, non. On retrouve beaucoup, on a la même histoire, donc forcément, on peut se replonger comme ça. Et il y a un petit...
C'est purement commercial.
Voilà, on va pas rentrer dans le détail, mais il y a un petit point qui est assez rigolo. Si pour les joueurs, si vous vous souvenez, lorsqu'on se baladait dans la ville et qu'on dépassait un peu la vitesse autorisée, à tous les coins de rue, il y avait un policier qui vous sifflait, et du coup, on était obligé de s'arrêter et de payer l'amende. Ici, bizarrement, il y a beaucoup, beaucoup moins de policiers dans les rues. Les voitures vont beaucoup plus vite. Le gameplay voiture est complètement différent, ce qui casse un peu cette nostalgie des puristes. Hein, voilà, pour faire simple, si vous êtes un puriste, ça risque de vous décevoir. Si vous avez juste bien aimé Mafia 1, le 2 et même le 3, commence déjà à peser dans la balance.
Oui, ça coûte, c'est une somme, j'ai dit combien, 40, 45 euros selon la version, parce qu'il est sorti aussi sur console. Moi, quand j'ai vu ça, je me dis, je pensais que c'était le pack où ils avaient Mafia 1, Mafia 2 refait et le Mafia 3 qui doit sortir. Je me dis, bon, 45 euros pour les trois jeux, pourquoi? Mais non, c'est un seul jeu apparemment, ça fait très mal.
Voilà.
Surtout que, pour comme tu dis, les puristes, est-ce qu'il n'est pas assez vieux pour être maintenant sur émulateur et te retrouver une bonne tranche de jeu avec les graphismes d'antan?
Plus je vois de jeux récents, plus j'ai envie de jouer aux anciens jeux.
Alors,
et je ne suis pas le seul.
Contrairement à... c'est sur Epic Store, c'est ça?
Oui,
un autre jeu qui est sur Epic Store et qui, cette fois-ci, est complètement innovant, c'est Tony Hawk Pro Skater 1 et 2, qui
bon,
est...
on te laisse parler, on s'en va 5 minutes.
Ouais. qui est exactement pareil. j'en ai plein comme ça dans ma poche, si vous voulez. Hein.
En parlant de jeux qui ne se ressemblent pas à la future édition, tu as le sur Steam, tu as le Sega qui fête les 60 ans anniversaire ou je sais plus, enfin bref, un nombre d'anniversaires, et il te fait des packs justement sur les Total War, certains Total War avec 90% dessus. Donc pour des jeux qui ne se ressemblent pas, comme tu dis, Tony Hawk Pro Skater et Mafia, au moins comme ça, je t'ai fait une triplette. Jamais 203.
Mais pour
le coup,
Tony Hawk, j'y ai passé beaucoup plus d'heures que prévu, donc c'est assez satisfaisant.
T'aurais mieux fait de t'acheter un vrai skate.
J'ai essayé, mais je me suis dit à mon âge, c'est peut-être difficile. Ça commence à être dangereux. Allez, parlons vraiment de nouveautés. On va parler de Baldur's Gate 3. Et tout sort cette semaine, j'y peux rien.
C'est
moi.
Terrible.
Alors,
c'est lamentable.
Baldur's Gate 3 a l'air extrêmement sympathique.
Faut pas se fier aux apparences.
Voilà, le seul problème, c'est qu'il y a un problème. Hein, il est en accès anticipé. Et je pense que c'est sur des grosses licences telles que Baldur's Gate.
Très attendu.
C'est étonnant de dire, bon allez, on va faire crasher 60 euros. Attention, 60 euros pour un accès anticipé. On prévoit un gameplay de 24 heures. Ce qui...
bah juste le premier acte du jeu, en fait. Donc en fait, une sorte de prologue. On te vend le prologue au prix du jeu.
On te vend l'épisode 1. Moi, pour... alors cette fois-ci, je peux dire que tu... je peux assumer qui a joué à Baldur's Gate, Reynald ?
Ah, le 1 et les 2, les Icewind Dale, enfin, j'ai tout poncé.
On est d'accord qu'ici, on ne parle pas de 24 heures de jeu.
Non.
On parle d'un long voyage tout seul dans sa chambre devant son ordinateur. À explorer les coins et les recoins pour trouver les quêtes et les quêtes annexes. Alors, même si Baldur's Gate 3, graphiquement, envoie du lourd, même s'il promet des décisions qui vont affecter un peu votre jeu, l'accès anticipé, pour moi, est très dur à digérer. Sachant qu'on peut être sûr que les DLC qui vont suivre l'épisode 2, on risque de vous rajouter une petite couche sur ces 60 euros.
Bah après, il y a pas mal de news qui ont été faites pour être vraiment appréciées. Est-ce qu'ils pensaient mettre en plus pour les streamers, par exemple sur Twitch ou sur YouTube, pour les lives en direct sur ces deux plateformes, des choses qui vont faire influencer les votes de tes viewers qui vont dire... il y a un dialogue, il y a trois choix dans le dialogue, qu'est-ce que tu veux faire ? C'est les... voilà. Ils veulent mettre ça en place. Est-ce que c'est un intérêt pour toi qui va jouer et faire la partie chez toi ?
Je pense que c'est bien résumé, Dom.
Enfin, oui, non, il n'y a aucune nouveauté pour moi. Quoi. Enfin...
Moi, 60 euros, le jeu complet comme ça, j'aurais acheté ça les yeux fermés. Et apparemment, sur le gameplay, on est plus proche d'un Divinity que...
C'est ce que j'allais dire, ouais. Divinity Original Sins 2, et tu le refais en boucle, ça suffit.
Quand tu me parles de jeux comme ça, voilà, qui te promet des, bon, les graphismes, etc. Effectivement, ces dernières années, il y a quelques jeux dont... les Divinity et Divinity 2, qui ont... moi, ça m'a mis une claque. Et c'est ça que j'attends d'un jeu vidéo. C'est que quand je le lance, et, dès le début, je me prends une claque. Quoi. Là, pas du tout.
Moi,
j'ai pas envie. Enfin, non, ça m'a...
Moi, je ne supporte plus les accès anticipés. C'est bien pour des petits jeux indés où le mec démarre, te propose. Là, tu te dis, ouais, en plus, il est réceptif à sa communauté qui ne doit pas être énorme. Un Banish en accès anticipé, on l'aurait tous pris, par exemple. Hein.
Des petits jeux comme ça, oui, il n'y a pas de problème, des jeux indépendants.
Mais un gros blockbuster comme Baldur's Gate.
Peut-être qu'ils le font parce que tout le monde attend la sortie, le RPG, enfin le RPG qui est attendu le plus, c'est Cyberpunk 2077, qui a été repoussé un petit peu à novembre, je ne dis pas de bêtises. Enfin, on commence, la communauté commence à avoir des petits points négatifs. Hein, on l'attend, il est attendu, et on va dire qu'il est attendu au tournant. C'est le gros jeu, mais lui, c'est pareil, il va être 60-70 euros, mais là, t'en auras sur ton écran pour ton argent, j'ai envie de dire. Mais je me méfie maintenant des annonces à l'avance. Il ne faut plus attendre.
Bah, surtout que là, ils te le disent, c'est super, ça a super bien fonctionné, il y a eu énormément de pré-vente du jeu, mais on garde quand même sur une sortie du jeu dans 2021, mais on ne sait pas encore quand. Près d'un an de développement encore en plus.
Et encore beaucoup plus. Hein. Si, voilà. Ici, on a déjà plusieurs années de développement sur un Baldur's Gate 3, avec à peine 24 heures, voire peut-être un peu plus de jeu, hein, mais bon, je trouve ça un peu décevant. Je vous propose, hein, puisqu'on parle de teaser, de continuer à s'écouter un peu de Ben Harper. Allez, c'est parti.
Kelvin, où est-ce que tu nous emmènes cette fois ?
Allez, on va partir pas très loin, on va partir à Londres. Dom me regarde du genre... T'es sûr que t'as pas remis Paris ? Sinon, j'ai du Miley Cyrus.
Non, ça va. J'essaie de m'imaginer à Londres, là. Dans le métro, peut-être. Dans quel quartier de Londres ?
On dirait la même que tout à l'heure, hein, je suis désolé.
Ça fait un peu country, donc je me dirais plutôt au milieu des États-Unis, là, tu vois.
Alors, il va faire un album complet.
Ça sera que des musiques d'ambiance comme ça ?
Oui.
Waouh.
Sinon, j'ai un groupe qui s'appelle Équateur. sont deux Parisiens. Un peu de pop. Bon, écoute, Ben, on va arrêter là, Ben Harper. Je suis désolé.
J'attends de voir les autres villes, hein, mais...
Bah, ou pas. Non, je vous propose de faire une petite pause avant de parler d'un événement qui prend de l'ampleur ce mois-ci, c'est Octobre Rose. Il y aura plusieurs événements sur la métropole lilloise. On va en parler rapidement. Et je vous propose juste avant d'écouter, alors vous me direz après ce que vous en avez pensé de ce groupe de pop-rock de France qui reprend du Voyage-Voyage pour accompagner Ben Harper dans son voyage entre chaque ville, la chanson de Désirless. On se retrouve juste après.
Au-dessus des vieux volcans, glissent des ailes sous les tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur.
C'est aussi bien qu'un remake de Mafia, ça.
C'est bien travaillé, c'est peut-être trop travaillé. Trop clean, trop propre, trop lissé.
Ouais, il y a quelques petites fausses notes à la voix qui laissent transparaître ce côté français. On l'a annoncé à plusieurs événements concernant l'Octobre Rose. Est-ce que tu peux nous rappeler, Dominique, quel est ce... À quoi est dédié ce mois d'octobre?
En fait, c'est une campagne de sensibilisation à la dépistage, j'allais dire dépistation, c'est grave, hein, au dépistage du cancer du sein. Et donc, c'était créé il y a 15 ou 20 ans, je crois, aux États-Unis, mais maintenant, c'est partout dans le monde. Et donc, il y a plein d'événements qui, à ce moment-là, permettent, que ce soit des événements culturels ou des vedettes qui mettent ça en avant, on met le dépistage du cancer du sein en avant. Et pas toujours, des fois c'est un petit peu critiqué, on pourra en parler après. Et notamment dans la région, donc je me suis amusé à chercher s'il y avait des événements un petit peu, alors pas forcément geek, mais un petit peu insolites autour du dépistage du cancer du sein, de la campagne Octobre Rose. Dans le Nord, par exemple, il y a une ville qui s'appelle Saint-Angoël, que tout le monde connaît, mais Saint, ça s'écrit S-A-I-N-S. Et pendant un mois, ils ont rebaptisé la commune Saint-S-E-I-N-S-Angoël.
Ah, pas mal.
Il y a plein d'autres événements. Par exemple, à Lille, il y a les Lilloises, c'est un groupe qui s'appelle, qui fait visiter la ville, et qui fait visiter la ville sur le point de vue des femmes célèbres de Lille. Alors, la première visite, c'était ce matin à 10h. Bon, j'étais en train d'écouter Viking sur Radio Campus, donc je ne pouvais pas y aller. C'est normal. La visite dure à peu près 2h. C'est les Audacieuses, c'est le nom du groupe, qui organise ces visites et qui fait la visite de Lille. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est parfait, c'est l'occasion. Et du point de vue des femmes historiques célèbres. Les prochaines visites, ça sera le jeudi 15 octobre, c'est à 18h30, ou le samedi 17 octobre, donc samedi prochain, à 10h, il suffit d'aller sur le site vozer.com, là où c'est le site où on retrouve tous les événements, les manifestations de la région notamment, mais pas que, vous pouvez réserver vos places.
Alors, on parlait de Saint-Angoël tout à l'heure, il y a des marches roses qui sont mises en place, il y a des ateliers de sensibilisation. Alors, plus que de sensibiliser les gens au dépistage, c'est aussi accompagner les gens qui ont la maladie.
Oui, c'est ça. Et puis, surtout les gens qui sont sortis. Claude en a un peu parlé, on en a parlé tout à l'heure dans sa mission L'écho des tropiques. Mais effectivement, il y a essayer de ne pas forcément faire un côté négatif sur cette maladie, quoi.
Alors, pour justement mettre un peu de gaieté dans tout ça, c'est une boulangerie du centre-ville de Laval qui vend une nouvelle petite pâtisserie.
Ça revient tous les ans.
Oui, ça fait 6 ans qu'elle le fait, 6 ans que ça fonctionne très très bien.
Alors, c'est une meringue et je te laisse présenter ça, Reynald.
En fait, ça fait 6 ans que la boulangère Sandrine, de son prénom, crée une petite meringue qui s'appelle Le Petit Nichon, qui est une meringue blanche avec donc justement le petit melon rose, qu'elle vend, je crois, 1 euro, un truc comme ça, la part. Et ça fonctionne très bien. Et l'euro qui est gagné en vendant cette meringue est entièrement redistribué pour la recherche, pour médical. Quoi.
De toute façon, pour avoir les informations, pour donner, etc., il y a un site en France, il y a plusieurs qui ont été créés, c'est cancerdusein.org, là, il y a toutes les informations, toutes les manifestations pour faire des dons, etc. Alors, il y a beaucoup de manifestations, mais c'est pas toujours bien vu. Enfin, il commence à y avoir des critiques un petit peu négatives sur ce mouvement Octobre Rose. Le fait, déjà, c'est rose. Rose, on attribue toujours rose aux filles, et depuis quelques années, on se dit le rose, c'est pas forcément pour les filles. Donc il y a des gens qui commencent à critiquer pourquoi forcément rose, et pourquoi forcément. Il y a des gens qui critiquent parce que ça met un petit peu trop en avant le côté rose pour les filles, quoi, qui est un petit peu négatif. Et il y a aussi beaucoup de manifestations là-bas. Par exemple, il y a une ville, dont je tairai le nom, qui a voulu faire un geste. Ça partait d'un bon sentiment, mais ils ont mis dans la mairie une machine à laver rose. Alors c'est sympa de faire ça, mais
ça fait un peu sexiste.
Mais pourquoi machine à laver pour les femmes? Les hommes, ils n'utilisent pas de machine à laver non plus. Enfin, il commence à y avoir des critiques, mais il ne faut pas aller trop loin non plus. Il y a des gens qui font un petit peu n'importe quoi. Donc ça commence à être critiqué depuis quelques années. C'est bien de sensibiliser, de faire des opérations, de faire des concours, des manifestations sportives, etc. Mais il faut faire attention à ne pas aller trop loin non plus.
C'est quoi cette machine dont vous parlez là? J'ai du mal à saisir.
le marketing commence à l'emporter, il y a passé dans le côté un petit peu négatif, quoi.
Mais, et ça c'est quelque chose que peu de gens savent, le cancer du sein touche aussi 1% de la jambe masculine.
Il y a des hommes qui sont atteints du cancer du sein, effectivement, moins de 1%, mais bon, c'est pas négligeable, faut pas les oublier non plus, quoi. Effectivement, ce côté mettre les femmes en avant, tout le monde peut atteindre, il n'y a pas que ces maladies-là qui ont besoin d'aide, quoi. Mais effectivement, puis faut rappeler que faut pas, ça concerne pas forcément les femmes à partir de 40 ou 50 ans, etc. Moi-même, j'ai connu des femmes de 30-35 ans ont dû se faire amputer d'un sein parce qu'elles avaient un cancer qui n'avait pas été détecté. Donc même si on n'a que, je ne sais pas, 20 ans peut-être, etc., il ne faut pas hésiter à se renseigner et à voir si on peut être atteint. Surtout quand il y a des cas, parce que c'est une maladie qui peut parfois être héréditaire, donc il commence à y avoir des tests génétiques, surtout si dans sa famille, par le passé, on a eu des cas de femmes qui ont été atteintes du cancer du sein. On peut se faire détecter génétiquement. Maintenant, il y a des tests spéciaux pour voir si on risque d'être atteint. Et c'est aussi une des critiques négatives, c'est que maintenant, on peut se faire détecter, on peut aller se faire détecter pour à la moindre alerte. Et s'il y a trop de gens qui se font, enfin, c'est assez compliqué à expliquer, mais s'il y a trop de gens qui se font détecter, les gens, à la moindre alerte, la moindre suspicion qu'il peut y avoir une tumeur, les gens vont se faire traiter. Alors, des fois, toutes les tumeurs ne vont pas forcément devenir un cancer ou atteindre la personne. Donc, c'est pas parce qu'on a une petite suspicion de tumeur qu'il faut à tout prix mettre en branle tout de suite toute la machine médicale. Faut attendre, faire des analyses plus régulières, etc. C'est aussi un des points négatifs de ce genre d'opération, c'est que ça peut amener trop de gens sur, alors dans les hôpitaux. On sait qu'en plus, ça fait que les campagnes de dépistage ont été un petit peu mises en pause dans certains endroits parce que les hôpitaux étaient pris à cause du Covid, etc. Donc là, Octobro, c'est aussi l'occasion de rappeler, ben voilà, le Covid est toujours là. Il est même en train de repartir de plus belle dans la métropole illoise, mais pas que. Mais que faut pas attendre que ça soit passé pour aller à l'hôpital pour se faire dépister, pour faire des examens, on va dire, classiques, etc. Il ne faut pas laisser la priorité. Il ne faut pas hésiter à consulter, à voir son médecin.
Ouais, ne serait-ce que faire une surveillance et de faire une sorte de check-up, comme ça a sûrement été expliqué lors des émissions précédentes, mais toujours l'autopalpation pour voir, discerner si tu as quelque chose de différent et de voir si ça a évolué entre la dernière fois que tu as été voir ton médecin ou autre, mais pas forcément tout de suite sortir le grand jeu, d'aller au bloc...
Exactement, c'est ça. Oui, bah même les hommes, voilà. Simplement, ils peuvent, s'ils voient, constatent quelque chose de différent dans la poitrine de leur femme, etc. Parce que les femmes ne sont pas toujours forcément aware, comme on pourrait dire. Il ne faut pas hésiter à leur dire, bah, tiens, il y a quelque chose de différent, tu devrais peut-être consulter ou de t'examiner toi-même, etc. C'est comme ça que ça commence. C'est des gestes tout simples. Il ne faut pas hésiter à faire et à partager.
Voilà, et ça dure tout le mois d'octobre, donc vous pouvez...
Ça dure toute l'année, mais c'est vrai que c'est en octobre, octobre rose, qu'on met ça en avant.
Ok, je la prends celle-là. Alors, est-ce qu'on peut mettre une petite note un peu insolite et humoristique dans ce thème un peu sérieux? C'est un homme de 86 ans. Qui a dû retirer un nain de jardin.
Absolument, c'est en Belgique, à Tournaut, et il aime bien les nains de jardin. Il n'y a pas de problème. Peut-être qu'il faudrait trouver des invités spécialisés en nains de jardin un jour pour faire une émission spéciale. Le nain de jardin a toujours la cote de par le monde, surtout en Belgique, mais pas que. Et il aime bien l'humour, il aime bien les nains un peu insolites.
Et on lui a offert d'ailleurs, c'est un cadeau.
Et une naine, en l'occurrence, voilà, là, il y a même chez les nains, il y a la parité. Une naine avec une poitrine un peu proéminente, mais surtout visible. En gros, c'est une naine de jardin qui avait une jolie poitrine bien généreuse et tout à fait visible. Et son jardin donnait sur la rue, donc il y a des enfants qui passaient. Il y a des parents qui ont commencé à se dire, il est joli votre nain, mais mes enfants passent devant votre maison tous les jours. Faudrait peut-être le cacher ce sein que je ne saurais voir, voilà, comme dit la fameuse pièce. Et... ben, il était obligé, à la suite des plaintes, de retirer cette naine avec la poitrine généreuse. Peut-être qu'il l'a emmené à l'hôpital pour la faire tester, on ne sait pas.
Et sous la grande incompréhension de cet homme qui s'est dit, mais attendez, mais la mairie n'a rien d'autre à faire que de faire la loi sur la décoration des jardins.
Je crois qu'il faudrait voir au niveau de la Commission européenne s'il n'y a pas moyen de faire une loi ou un décret pour fixer la taille maximum de la poitrine des naines de jardin.
Alors, on ne dit pas...
Ils ont que ça à faire eux aussi.
On ne dit pas s'il a dû retirer le nain avec le gros pénis, mais bon, ça en vient.
Ah non, ça c'est pas les enfants n'avaient pas peur. Non, je suis plaisant.
Alors, est-ce qu'on a d'autres petites news que vous souhaitez parler comme ça, puisqu'il est déjà 18h44
Ça passe vite.
Alors, on a encore de la musique en stock. Je pense qu'on peut arrêter la musique pour le moment. Ouais. Est-ce que les codecs nous seront présents?
Théoriquement. D'après, mais j'ai des sources proches du dossier, comme on dit, m'ont annoncé que les gnous étaient de retour enfin sur Radio Campus ce dimanche soir. Ça tombe bien parce qu'on a accumulé les news depuis, en fait, la dernière fois qu'on les a vues, je crois que c'était juste avant le confinement, au mois de mars. 6 mois de news spécial nous qu'on a mis de côté.
Alors on guette en même temps la porte, à voir si une petite tête va passer et rentrer dans les studios. Alors on peut commencer à écouler quelques-unes de nos news au cas où, hein. Je pense qu'on peut prendre un peu d'avance. Qui veut ouvrir le bal avec, moi je propose... quand même une news qui est importante dans l'univers libre. Oui. Écoute, je vous propose, si bien ne pas, on continue une heure de news libre juste après. Non. Parce que nous, c'est vrai qu'on voilà, on s'attache à ce qui est vraiment important dans le logiciel libre, et notamment le navigateur Edge, qui sera disponible sur Linux.
Mais oui, déjà, il y a plein de gens, j'ai des gens qui m'ont appelé. C'est quoi ce Edge qui s'est installé tout seul sur mon ordinateur ?
Alors, quand on en avait parlé, tu m'avais regardé avec des gros yeux en disant « Mais non, c'est pas intrusif, l'installation de Edge. » Et en fait, on est bien d'accord, ça arrive en plein écran et vous n'avez pas la possibilité de faire autre chose
c'est
que
ça,
de...
Si tu as Windows, tu as, ouais, au cours d'une mise à jour, que ce soit en septembre ou en octobre, ouais, tu as un nouveau logiciel qui s'installe presque de lui-même sur ton ordinateur et qui rajoute une petite icône sur ton bureau, si c'est bien fait.
Ah, mais là, il te met un gros message en plein écran et te bloque complètement l'accès tant que tu n'as pas poursuivi comme ça l'installation ou le refus d'utiliser le nouveau navigateur de Microsoft. Alors, nouveau, pas tant que ça, hein, ça fait déjà quand même plusieurs années qu'Internet Explorer a été décommissionné pour faire place à Edge.
La nouveauté, c'est que Edge, Edge, c'est l'apparence, c'est l'interface, etc. C'est le nom du logiciel. Mais le moteur, ce qu'on appelle le moteur de navigation, je ne sais pas comment on peut l'appeler, derrière, c'était un moteur maison de chez Microsoft. Firefox, par exemple, qui est édité par Mozilla, a son propre moteur d'affichage de navigation pour vous emmener sur les interwebs. Et le gros morceau, c'est Chrome. De Google, qui a son propre moteur d'affichage et de navigation. Et le Edge, le nouveau Edge de Microsoft, utilise le même moteur de Chromium. Voilà, donc tu peux avoir une interface, un visuel différent. Il y a des tonnes de navigateurs, je ne vais même pas les citer, quoi. Mais derrière, par contre, le moteur d'affichage, tu peux même faire ton propre navigateur et emprunter le moteur de Chrome ou de Firefox pour gérer tout l'affichage, la navigation. Et donc, c'est à travers Microsoft, tu as un petit peu de Google qui s'installe.
Alors,
pas que sur Windows, effectivement, sur Linux aussi.
C'est ça. Alors, ça sera disponible dans un premier temps sur un canal de prévisualisation.
Et là, je me demande s'il y a beaucoup d'utilisateurs de Linux, y compris chez GNU, qui vont l'installer, le tester.
Déjà, les puristes de Microsoft n'utilisent pas Edge. Ah ben voilà, c'est parti. On aura bien une émission des GNU après, on leur laissera l'opportunité de répondre à nos petits trolls affectifs, bien sûr. Et bah oui, comme tu le disais, hein, Microsoft investit de plus en plus.
Absolument, parce qu'il y a de plus en plus des petits bouts de Linux qui s'installent dans des logiciels de Microsoft, etc. Mais là, pour que Microsoft envahisse les distributions Linux, c'est balèze.
Alors, un autre point qu'on peut aborder, et notamment pour ceux qui veulent s'initier à la robotique. Encore un petit troll, c'est Amazon qui propose les Cyber Robotics qui vous permettront de vous initier comme ça.
C'est une initiative qui est dédiée un petit peu aux enseignants et à leurs élèves pour initier à la programmation. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus dans les écoles françaises. Et ils ont constitué tout un programme donc sur votre navigateur. C'est bien parce qu'il n'y a même pas besoin d'avoir un compte Amazon ni quoi que ce soit. Donc apparemment, c'est gratuit. Apparemment, on ne va pas leur donner d'argent. Et on peut s'initier à la robotique avec des petits exemples tout simples. Et puisqu'on sait que dans les grands, des immenses dépôts d'Amazon, ce sont des robots qui gèrent les colis, qui vont chercher le crayon, je ne sais pas quoi, spécial que tu as commandé sur Amazon. C'est un robot qui va venir l'apporter éventuellement à un employé qui va l'emballer, etc. Et tous ces robots sont gérés de façon intelligente. Et on t'apprend à conduire un petit robot avec des visuels 3D, un mélange d'images de 3D et d'images réelles, à programmer un petit robot. Au début, c'est tout simple. Hein. J'ai fait le début du parcours, on t'apprend à faire avancer le robot, puis à un moment, on l'apprend à le faire tourner, puis ça va être de plus en plus compliqué, puis tu vas apprendre à programmer ton robot pour qu'il réagisse, pour qu'il aille chercher des éléments spéciaux, qu'il ne se trompe pas dans les commandes, etc. C'est très amusant, c'est très simple à faire, c'est très rapide. Mais au bout d'un moment, tu t'aperçois quand même que c'est pas que tu t'inities toi-même à la robotique et apprendre à maîtriser le robot, c'est plutôt que tu apprends à bien devenir un robot.
Ah.
Un bon robot pour devenir un bon futur employé de chez Amazon pour travailler dans leur dépôt et bien te comporter comme un robot humain.
Alors peut-être pas que Amazon hein, d'ailleurs. Hein,
oui, c'est un petit peu partout pareil.
De bien. Plus en plus. Est-ce que tu as vu cette vidéo où on voit un robot donc, vraiment fait de façon humanoïde qui a un bug, donc son visage commence à déconner un peu, voilà, et on a l'impression qu'elle crie, qu'elle est en douleur, et ça c'est un peu, beaucoup d'internautes ont été émus par cet androïde qui était en train de bugger, comme si c'était une vraie personne qui était en train de souffrir, et on commence à voir une ligne comme ça très fine.
Mais tu l'as déjà avec les vidéos de robots construits de façon humanoïde, où après d'autres personnes le saccagent à coups de batte de baseball en disant « je détruis l'objet que je viens de construire », et les réactions c'est pas « vous faites des vidéos de merde », mais vous entendez de détruire un être humain. Déjà à ce niveau-là, parce que tu as reconstruit un robot de forme humaine. C'est tendancieux.
Voilà, et on pourra regarder Ghost in the Shell pour se mettre plus dans le sujet. Allez, Doc.
Donc, si vous voulez vous initier à la robotique grâce à nos amis d'Amazon, donc c'est sur amazonfutureengineer.fr. J'aime bien, ils ont mis un anglais avec un .fr, mais pourquoi pas. Et vous avez le Cyber Robotics Challenge qui s'ouvre à vous. Et ça peut être amusant quand même pour s'initier vraiment à la programmation de la robotique, mais méfiez-vous.
Alors, vu qu'on parle d'Amazon, on peut dire qu'ils ont quand même nommé à leur conseil d'administration un ancien chef de la NSA qui était spécialisé dans la surveillance de masse en tant que... Alors, le général s'appelle Keith Alexander.
C'est le genre de petite information qui passe en douce, tu vois, et que s'il n'est pas repéré, ça te file un peu les jetons, quoi. Quand une grosse boîte comme Amazon ou Google ça, va chercher des anciens militaires spécialisés dans le renseignement, dans l'intrusion, dans la vie privée, enfin, en fait, ils se cachent même plus, quoi.
Bah, en même temps, ce qu'on peut faire avec Google et Amazon, la majorité de leur pouvoir vient du fait qu'ils savent ce que veulent les gens. Puisqu'ils maîtrisent vos requêtes, ils maîtrisent vos recherches. Et à partir de là, ben, il peut vous vendre n'importe quoi à n'importe quel moment.
Bon. Bah, sur le sujet, il y a justement une série qui vient juste de commencer. Alors, je crois qu'il y a qu'un ou deux épisodes. Une série qui s'appelle Next. Et qui raconte un peu l'histoire, qui parle de ça, d'intelligence artificielle, d'assistants personnels, comme on en avait déjà parlé ici. Et on suit les aventures d'un personnage qui a monté une entreprise, une entreprise de la tech, quoi, et qui a développé une intelligence artificielle super intelligente. Mais le problème, c'est que lui, il s'est aperçu que cette intelligence allait devenir trop intelligente, un petit peu la façon de Terminator, enfin, vous voyez le genre, quoi. Et il a décidé d'arrêter, quoi. Le problème, c'est que les autres gens de sa boîte l'ont dit, mais non, ça peut faire de l'argent, du coup, ils l'ont viré. Et le problème, c'est que cette intelligence artificielle, apparemment, s'échappe sur Internet et va. Enfin, on va voir ce qui se passe, quoi. Il essaye de lutter contre. Donc, on est vraiment typiquement dans le sujet. Donc, la série s'appelle Next. Alors, je ne sais plus sur quel réseau elle est, mais pour l'instant, il y a que la saison vient à peine de commencer. Donc, on en reparlera quand il y aura un peu plus d'épisodes.
Allez, à voir, du coup. Allez, dans les autres news qu'on a accumulées, comme ça, en attendant l'écho des gnous, il y a, pendant que les États-Unis essayent d'interdire TikTok et le bannissent avant de prendre contrôle...
Ils essayent plus de le récupérer qu'autre chose.
C'est ça. Bah, surtout de pas subir leur espionnage, hein, mine
oui,
de rien.
Oui, c'est ça. Pourquoi c'est les Chinois qui ont le droit d'explorer, d'espionner nos bons Américains? On peut le faire nous-mêmes, on est assez grands.
Et pendant ce temps-là, pour toutes les personnes qui ont un Oculus à la maison, hein, ce casque de réalité virtuelle, il vous sera obligatoire, hein, normalement ce mois-ci, d'avoir un compte Facebook pour utiliser le casque.
C'est un truc de fou, quoi.
Toi, tu te dis, mais quel intérêt ?
Quel intérêt ? J'ai déjà un compte Facebook, c'est ça ?
Non, même pas. Ou alors, est-ce que tu devras avoir un compte Facebook si tu as déjà un Oculus Rift chez toi ? Ou est-ce que c'est, quand tu vas en acheter un et le paramétrer, tu devras te connecter avec ? Là est la question. Parce que sinon, si tu as déjà un Oculus Rift et que tu n'as pas de compte Facebook, c'est pas grave. Tu as déjà des paramétrés, tu peux jouer. Mais si tu dois créer un compte Facebook pour après jouer sur un Oculus Rift, c'est débile.
Est-ce que c'est pas pour ça que Facebook avait racheté le Oculus à la base.
Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas, enfin, tu vas utiliser un Oculus Rift pour voir tes notifications sur Facebook? Ça n'a aucun intérêt.
Non, mais ça permet de vous partager de nouvelles applications. On voit le bon côté des choses.
Voilà, ouais. Hein, savoir exactement ce que tu fais en temps réel aussi. Voilà.
Pourquoi tout de suite voir le mal, hein? Allez, on va terminer avec forcément le virus informatique.
Ben oui, depuis le temps, le numéro 44, on sait qu'il avait beaucoup de difficultés suite à la faillite de Prestalis, leur distributeur. Il avait perdu beaucoup de joueurs d'argent. Et enfin, grâce à une campagne de financement participatif sur le logiciel, le 44e virus informatique a été financé, heureusement. Et vous pouvez maintenant trouver en kiosque, non pas le numéro 44, non pas le numéro 45, mais les deux. Wow. Un numéro double. Donc, il coûte quand même deux fois plus cher, 4 euros.
Et on vous invite vraiment à l'acheter dans les kiosques, puisqu'il permettra le
financement du prochain numéro.
Effectivement.
Et la survie des journalistes de l'équipe du virus informatique.
Exceptionnellement, on peut diffuser ce magazine.
Le numéro 44, effectivement, j'ai mis le lien, je mettrai le lien sur nos sites.
Il est libre de droit.
Oui, exactement. Moi, je l'ai eu parce que j'ai participé, moi.
Si ça, c'est pas une bonne transition pour nos collègues. Voilà, on se quitte sur cette belle note. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Heureusement en France. On se quitte avec, attention, pour faire un clin d'œil à l'Octobre Rose avec Gros Nibar et la chanson Au coup de trop.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.
を刻み受け継がれてきた恐るべき暗殺剣があった。その名を北斗神拳。天空に連なる7つの星のもと、一子相伝の北斗神拳をめぐって悲劇は繰り返される。Yeah.